Chapitre 55. Un adieu. Le lendemain matin, à l'heure où la courtisane sortit du bain et se remit dans son lit, son ami arriva. « J'ai les deux perles !» dit la Valnoble. « Voyons !» dit Esther en se soulevant et en fonçant son joli coude sur un oreiller garni de dentelles. Madame du Valnoble tendit deux espèces de groseilles noires. Le baron avait donné à Esther deux de ses levrettes d'une race célèbre et qui finira par porter le nom du grand poète contemporain qui les a mises à la mode. Aussi la courtisane, très fière de les avoir obtenues, leur avait-elle conservé les noms de leurs aïeux, Roméo et Juliette. Il est inutile de parler de la gentillesse, de la blancheur, de la grâce de ces animaux, faits pour l'appartement et dont les mœurs ont quelque chose de la discrétion anglaise. Esther appela Roméo. Roméo accourut sur ses pattes si flexibles et si minces, si fermes et si nerveuses que vous eussiez dit des tiges d'acier, et il regarda sa maîtresse. Esther fit le geste de lui jeter une des deux perles pour éveiller son attention. « Son nom le destine à mourir ainsi, » dit Esther en jetant la perle que Roméo brisa entre ses dents. Le chien ne jeta pas un cri. Il tourna sur lui-même pour tomber roi de mort. Ce fut fait pendant qu'Esther disait la phrase d'oraison funèbre. « Ah, mon Dieu !» cria Madame du Valnoble. « Tu as un fiacre, emporte feu Roméo, » dit Esther. « Sa mort ferait un esclandre ici. Dépêche-toi, tu auras ce soir tes 50 000 francs. » Ce fut dit si tranquillement et avec une si parfaite insensibilité de courtisane que Madame du Valnoble s'écria « Tu es bien notre reine !» « Je dirai que je t'ai prêté Roméo. Il sera mort chez toi. Viens de bonne heure et sois belle. » À 5 heures du soir, Esther fit une toilette de mariée. Elle mit sa robe de dentelle sur une jupe de satin blanc. Elle eut une ceinture blanche, des souliers de satin blanc et, sur ses belles épaules, une écharpe en point d'Angleterre. Elle se coiffa en camélia blanc naturel en imitant une coiffure de jeune vierge. Elle montrait sur sa poitrine un collier de perles de 30 000 francs donné par Nucingen. Quoique sa toilette fût finie à 6 heures, elle avait fermé sa porte à tout le monde, même à Nucingen. Europe savait que Lucien devait être introduit dans la chambre à coucher. Lucien arriva sur les 7 heures. Europe trouva moyen de le faire entrer chez madame sans que personne ne s'aperçût de son arrivée. Lucien, à l'aspect d'Esther, se dit « Pourquoi ne pas aller vivre avec elle à Rubempré, loin du monde, sans jamais revenir à Paris? J'ai 5 ans d'art sur cette vie, et la chère créature est de caractère à ne jamais se démentir. Et où trouver un pareil chef-d'œuvre? Mon ami, vous dont j'ai fait mon Dieu, dit Esther en pliant un genou sur un coussin devant Lucien, bénissez-moi. Lucien voulut relever Esther et l'embrasser en lui disant qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, mon cher amour ? Et il essaya de prendre Esther par la taille. Mais elle se dégagea par un mouvement qui peignait autant de respect que d'horreur. « Je ne suis plus digne de toi, Lucien » dit-elle en laissant rouler les larmes dans ses yeux. « Je t'en supplie, bénis-moi et jure-moi d'établir à l'Hôtel-Dieu une fondation de 2 lits. Car pour des prières à l'église, Dieu ne me pardonnera jamais qu'à moi-même. » Je t'ai trop aimé. Enfin, dis-moi que je t'ai rendu heureux et que tu penseras quelquefois à moi. Dis !» Lucien aperçut tant de solennelle bonne foi chez Esther qu'il resta pensif. « Tu veux te tuer ? » dit-il enfin d'un son de voix qui dénotait une profonde méditation. « Non, mon ami, mais aujourd'hui, vois-tu, c'est la mort de la femme pure, chaste, aimante que tu as eue. Et j'ai bien peur que le chagrin ne me tue. » Pauvre enfant, attends, dit Lucien. J'ai fait depuis 2 jours bien des efforts, j'ai pu parvenir jusqu'à Clotilde. Toujours Clotilde ! Dit-elle avec un accent de rage concentré. Oui, reprit-il, nous nous sommes écrits. Mardi matin, elle part, mais j'aurai sur la route d'Italie une entrevue avec elle à Fontainebleau. Ah, ça ! « Que voulez-vous donc, vous autres, pour femmes ? Des planches !» cria la pauvre Esther. « Voyons, si j'avais 7 ou 8 millions, ne m'épouserais-tu pas ? » ?»« Enfant, j'allais te dire que si tout est fini pour moi, je ne veux pas d'autre femme que toi. » Esther baissa la tête pour ne pas montrer sa soudaine pâleur et les larmes qu'elle essuya. « Tu m'aimes ? » dit-elle en regardant Lucien avec une douleur profonde. « Eh bien, voilà ma bénédiction. Ne te compromets pas. Va par la porte dérobée et fais comme si tu venais de l'antichambre au salon. « Baise-moi au front, » dit-elle. Elle prit Lucien, le serra sur son cœur avec rage et lui dit « Sors !» avec un accent terrible. Quand la mourante parut dans le salon, il se fit un cri d'admiration. Les yeux d'Esther envoyaient l'infini dans lequel l'âme se perdait en les voyant. Le noir bleu de sa chevelure fine faisait valoir les camélias. Enfin, tous les effets qu'elle avait cherchés furent obtenus. Elle n'eut pas de rivale. Elle parut comme la suprême expression du luxe effréné dont les créations l'entouraient. Elle fut d'ailleurs étincelante d'esprit. Elle commanda l'orgie avec la puissance froide et calme que déploie Anne Beck au conservatoire dans ses concerts, où les premiers musiciens de l'Europe atteignent au sublime de l'exécution en interprétant Mozart et Beethoven. Elle observait cependant avec effroi que Nucingen mangeait peu, ne buvait pas et faisait le maître de la maison. À minuit, personne n'avait sa raison. On cassa les verres pour qu'ils ne servissent plus jamais. Deux rideaux de Chine furent déchirés. Bixiou se grisa pour la seule fois de sa vie. Personne ne pouvant tenir debout, les femmes étant endormies sur les divans, on ne put réaliser la plaisanterie arrêtée à l'avance entre les convives de conduire Esther et Nucingen à la chambre à coucher, rangée sur deux lignes, ayant tous des candélabres à la main et chantant le Buon Nasera du barbier de Séville. Nucingen donna seul la main à Esther. Quoique gris, Bixiou, qui les aperçut, eut encore la force de dire, comme Rivarol, à propos du dernier mariage du duc de Richelieu, « Il faudrait prévenir le préfet de police. Il va se faire un mauvais coup ici. » Le railleur croyait railler, il était prophète.